Ah oui, on continue
oui.
sur...
On travaille sur la Constitution.
Sur la Constitution. Ah, oui.
Parce que c'était 18-20, je crois.
Voilà, 18-20 et 20-22, atelier constitutionnel, atelier économique, atelier... On fait 2 heures. On s'arrête à 22 heures.
Chaque fois, c'est par
là. Oui, oui. D'accord, très bien. Voilà. Voilà, donc, on va continuer notre exercice pratique de définition juridique qui nous fait faire un petit détour par rapport à notre objectif initial qui était de nous concentrer sur l'analyse critique des textes constitutionnels. Mais il m'a semblé extrêmement intéressant, vu la façon dont s'est déroulée la réunion de la semaine dernière, justement de faire ce petit exercice qui est, à mon avis, éclairant justement par rapport à notre méthodologie de critique de textes existants. Parce qu'en fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, en partant de l'analyse critique de l'article 9, je crois, si je ne me trompe pas de numéro, du préambule de la Constitution de 46, de mettre en évidence, en fonction de nos critères, hein, qui sont les critères de clarté, de précision et de cohérence, cette notion de service public, qui nous paraît ni claire, ni précise, ni cohérente, et de dire il faudrait quand même la définir. Bon, étant donné qu'elle n'est définie nulle part, on a pensé qu'il peut être intéressant d'essayer de faire une définition, non pas pour ensuite produire quelque chose, ça servira peut-être après, puisque on a vu qu'au terme de notre analyse critique, on envisagerait peut-être un travail avec ceux qui le souhaiteront de réécriture carrément, ou d'écriture. Mais là, je vous propose de le considérer plutôt comme un exercice d'écriture d'un principe qui nous paraît pas clair. Et cet exercice a deux objectifs. D'abord, nous faire toucher la difficulté qu'il y a à essayer de préciser de façon juridique un critère un concept qui globalement nous paraît évident, hein. Bon. Et puis de voir aussi que lorsqu'on critique quelque chose qui est écrit, eh bien, quand on a essayé, nous, d'écrire, on a sans doute une critique qui est plus construite et plus avisée que si on a fait toujours que critiquer et jamais essayer d'écrire. Voilà, bon, c'était l'idée. Donc, la semaine dernière, je vous ai proposé une proposition de définition de ce qu'était un service public juridique, c'est-à-dire inscrire l'idée, c'était de dire la notion de service public est quelque chose de tellement important, voire pourquoi pas fondatrice de notre organisation sociale, que ça justifierait, pourquoi pas, d'insérer un titre nouveau dans la Constitution, du service public. Comme il y a de la souveraineté, du président de la République. Mm-hmm. Le service public, c'est, je pense, aussi important. La notion de service public est au moins aussi importante que la notion de président de la République.
Non, moi, je pense que c'est plus important.
Oui. Lequel est plus important ?
Le service public est plus important que le président.
Absolument.
Le président,
c'est que, bon, voilà. C'est pas grand-chose.
De mettre du service public ou de l'intérêt général ?
Oui, alors, bon. En tout cas, alors. L'idée, c'est lorsqu'il y a un concept qui est extrêmement important dans ses applications, dans ses déclinaisons concrètes, il conviendrait plutôt qu'il y ait une idée flottante comme ça au-dessus de la Constitution, bah, qu'on le mette carrément dans la Constitution en lui donnant une corpéité linguistique, enfin, une façon de décrire. Alors, c'était ce que je vous ai proposé, c'était issu de réunion du grand débat national que j'ai animé, et on s'était amusé à faire ça. Et puis là, donc c'est Jacques qui nous a communiqué une proposition de la CGT qui date de quand ?
Oh, je pense que ça a déjà de la bouteille.
Ouais ?
Ouais, je pense. Je ne peux pas te dire de quand ça date, mais c'est probablement pas récent.
D'accord. Donc, on va faire.
Mais disons, on voit bien qu'ils ont.
D'accord. On va faire le même protocole que la dernière fois, et puis exactement le même protocole aussi qu'on a utilisé pour étudier les textes existants, sauf que ça, ce n'est pas des textes existants. Supposons qu'on veuille. Toujours énoncer le problème. Supposons qu'on veuille créer un titre spécifique dans la Constitution qui s'appelle du service public. Hein ? Est-ce que ce qui est écrit là, c'est clair ? Est-ce que c'est précis ? Est-ce que c'est cohérent ? Voilà. Alors, dernier mot, je reviens sur l'application idéologique. Donc, on ne parle pas d'idéologie, on en parlera plus tard. On essaye de dire ce que je veux dire, est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est précis ? Est-ce que c'est cohérent ? C'est pas, est-ce que c'est bien ce que je veux dire ? Encore une fois, on pourrait très bien étudier un texte produit par un anarcho-capitaliste, par exemple, ou un ultralibéral qui dirait, moi, je vous propose d'écrire ça dans la Constitution. Alors, l'étude critique, c'est effectivement ce qu'on a dit, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est précis, est-ce que c'est cohérent, mais c'est complété par les incidences qu'on extrapole. C'est-à-dire, attention, si je suis d'accord pour écrire ça, je pense que c'est précis, je pense que c'est clair, je pense que c'est cohérent. Bon. Avant de le valider, je vais faire une simulation. Hein, et je vais voir ce que ça donne, appliqué à ça, appliqué à la vie civile, appliqué à la vie commerciale. Voilà. Bon. Afin que j'ai non pas une approche uniquement théorique. Bon, la loi, c'est quelque chose de théorique. Hein, c'est abstrait, c'est théorique. Mais la loi, c'est aussi quelque chose qui est censé aller s'appliquer dans le concret. Donc, voir les incidences que ça a dans le concret et porter donc un jugement qui tienne compte aussi de ça. Donc, définition du service public. Alors, on a plusieurs choses. Hein. J'ai écrit au tableau pour qu'on ait bien sous les yeux que chaque mot a son importance.
Hein. Ouais, sans doute.
Alors, c'est un ensemble de moyens qui permettent aux citoyens d'exercer ou de faire valoir leurs droits fondamentaux d'hommes et de femmes libres dans notre mode d'organisation de société qui s'appelle la République. Alors, je vois, qu'est-ce qu'il y a comme chose après ? Bon, tout est important, mais ce qui me semble important, c'est le mot moyen.
Oui,
c'est... Service public, c'est des moyens. Aux citoyens d'exercer, de faire valoir. Alors, bon, exercer et faire valoir, je trouve que c'est intéressant de voir si ça veut dire la même chose. Ben, si on met exercer et faire valoir,
c'est que c'est pas pareil.
C'est peut-être que c'est pas pareil. Hein. Ou alors, bon, ça peut être redondant aussi. Un artifice de
rédaction
constitutionnelle, on met deux mots pour renforcer. Si, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être assez synonyme, mais avec l'objectif de renforcer. Ou alors, on cible deux notions qui ont une spécificité à chacune. Après, alors, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est la notion de droit fondamental. Voilà. Bon, hommes et femmes.
Bien sûr.
Alors, libres. Hommes et femmes libres. Dans un domaine qui s'appelle la République. Voilà. Alors, avant que tout le monde s'exprime, je dirais juste deux, trois petites réflexions comme ça qui me viennent. Je commence par la fin. Tout ça, c'est dans notre mode d'organisation de société qui s'appelle la République. Je me pose la question de savoir si ça ne s'appelait pas la République, c'est parce que ça s'appelle la République. Alors, est-ce que c'est aussi une définition de la République ? Ça me paraît inutile. Bon.
De quoi ?
inutile.
Libre.
Dans notre mode d'organisation sociétique, c'est pas inutile.
Ça paraît inutile.
Moi aussi,
bon, je
non, mais.
C'est bon.
Voilà. Et si on change de.
Que les services publics soient un ensemble de moyens. Alors, je voudrais vous entendre vous exprimer sur est-ce que ce sont des moyens. Et puis, bon, la principale interrogation, c'est le droit. Enfin, droit.
Donc c'est les articles 9, 10, 11, et 12 et 13 de la...
Alors, d'accord.
C'est ça,
alors, les droits fondamentaux, d'accord.
Hein, et c'est ce qu'ils disent, il est donc important de revenir sur les principes et les fondements des droits et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
C'est ça.
Donc, pour comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de services publics.
C'est ça.
Et on vient sur les...
10, 11, 12, 13.
Voilà.
Oui. Alors, on va les lire. Hein. Alors, les droits fondamentaux... Effectivement, donc cette définition serait complétée par l'ordre fondamental étant la nation assure à l'individu, à la famille, les conditions nécessaires à leur développement. Bon, c'est bien parce qu'en fait, on attaque l'article suivant. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge et de son état physique ou mental, de sa situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Le 12, c'est la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. Et la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l'État. Alors, on ajoute, si l'on ne fait pas référence à ces principes de base sur lesquels notre société repose, on ne peut comprendre ce qu'est évidemment un service public. Et on risque de se laisser embarquer par toutes les manipulations politiciennes. Bon, ça c'est un commentaire. Alors, donc les droits fondamentaux, c'est ceux qui sont décrits dans les articles 10, 11, 12, 13.
Tout à fait, oui. Ce que j'avais compris.
Bon, donc on va les voir, puisque c'est des articles qui sont...
Ah, mais c'est des articles de la, du
préambule. Oui, oui.
C'est pas... Là,
puisqu'on
c'est...
doit les voir. On va les voir.
Oui.
Moi, je me pose une question sur hommes et femmes libres. Vraiment, ça me pose une question, ça. Pourquoi est-ce qu'il y a... consubstantialité y a-t-il entre bénéficier d'un service public et être libre?
Non. Donc, quand tu es en prison, tu bénéficies d'un service public.
Comment?
D'autant que quand tu es en prison,
tu bénéficies d'un service public.
C'est vrai.
Oui. Ça, c'est pour nous noyer, tu dis ça. C'est
pas du tout.
Non, elle a raison, c'est vrai.
Qui c'est qui te loge, qui te nourrit, qui. T'as le principe de base, en tous les cas. T'as le fondamental.
Mais un citoyen qui est en prison, c'est un homme libre. C'est un homme libre qui est dans une société libre et simplement qui a fait une faute, qui a fait une infraction et qui donc est condamné par une loi qu'il a librement consentie puisqu'il a voté pour cette loi.
Mais quand
t'es privé, la logique.
Quand
tu es
privé de liberté,
ouais.
Pas libre, Christian.
Ah oui,
mais
quelle liberté?
Alors ça, c'est une question. Alors, attendez. Ça, c'est une question intéressante.
Ouais.
C'est une question. À mon avis, on. Bon.
On ne dévie pas.
On n'est pas dans l'essentiel de ça.
Ouais.
Mais on est dans l'essentiel de quelque chose, là. Est-ce qu'un gars qui purge une peine en prison, c'est un homme libre? Moi, je pense que oui. Mais faut se garder ce débat sous l'oreille. On va en reparler.
Ils peuvent voter.
Non, mais non, mais il est libre. La loi s'applique. La loi, c'est aussi pour. On pourrait dire ça. On pourrait dire la loi existe parce que vous êtes des hommes libres.
Non, mais les privés de liberté d'aller et venir, en tous les cas.
Oui.
C'est
oui.
Une liberté. Ça.
Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté?
C'est un droit.
Bon. Alors, parlez.
C'est une déviation. Par quoi que non, parce que là, on est libre.
J'aimerais bien savoir pourquoi ils ont mis libre, effectivement.
Mais pourquoi, pourquoi on met ensemble des moyens qui permettent aux citoyens d'exercer, pourquoi après rajouter d'hommes et de femmes Ou alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire préciser par là, peut-être.
Moi, je me serais limité à leurs droits fondamentaux.
Alors, voilà.
Bon, exercer et faire valoir, je vois la différence.
Ah oui, on est tout à fait d'accord, là, c'est très différent.
Bon. Mais ça, moi, j'aurais supprimé, oui, je suis là.
Dans notre mode d'organisation de société qui s'appelle la République, bon, franchement, qu'on le dise ou qu'on le dise pas, ça.
Les hommes et les familles.
Ça changerait.
Non, parce que c'est dans le contexte du siècle où ça a été écrit, ça.
Ouais. Oui, non, mais c'est tout, on est d'accord. Hein. Là, le préambule de la Constitution de 1946. Ça a été écrit en 1946, par les gens du CNR. Bon, c'est une influence très fortement communiste et très idéologique. D'ailleurs, c'est la partie la plus idéologique de la Constitution et très peu précise. Donc, c'est-à-dire qu'on balance des grandes idées.
Ouais.
Voilà. Le problème.
Mais au lieu de dire dans notre mode société, machin. Oui, il aurait pu dire ensemble de moyens constitutifs de la République. Ça voudrait dire que le service public, tel qu'il l'a entendu, ça, c'est une partie, c'est constitutif, ça fait partie de la République, et donc c'est un caractère, une caractéristique.
Ah oui, alors là, ça a un sens. Là, ce que tu dis, David, ça a un sens. Mais là, dans notre mode d'organisation qui s'appelle la République, il faudrait dire effectivement un ensemble de moyens qui sont consubstantiels, constitutifs, je crois que le mot est bon, de la République. Ouais. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas ça, c'est pas de République.
Voilà.
Alors, ce qui est intéressant aussi, deuxième détente de ce que tu proposes là, c'est qu'on n'a nulle part, je pense que ça ne vous a pas échappé, dans la Constitution, une définition de la République.
Pas plus que le service public.
Alors, c'est d'autant plus grave que si on lit l'article 89, l'article 89 de la Constitution, qui est le dernier article de la révision, la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, alors la forme républicaine, on va dire la République, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on n'est plus République. Voilà, bon, donc, la moindre des choses, ce serait de nous dire ce que c'est qu'une République. Alors, ça, bon, on l'a déjà dit, on ne dit pas ce que c'est que la démocratie, on ne dit pas ce que c'est que. Bon. Mais là, par contre, il y avait l'opportunité de cibler un peu le truc en nous disant le tout étant comme le
constitutif.
Fait très pertinemment. Le tout étant constitutif de la notion de République.
Moi j'aurais quand même mis la notion de société, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aurais mis leurs droits fondamentaux de la société dans laquelle ils vivent, quoi.
C'est forcément.
Ah ben alors, bon, si tu dis ça, tu enlèves la République.
Ah oui, parce
que la société. Mais à ce moment-là, autant.
Non
mais.
Sous la République.
Mais à ce moment-là, ils n'ont rien d'autre. T'en as rien, que ça c'est du. C'est du. Dans la société dans laquelle on vit, bon, ça c'est. Juridiquement, ça n'apporte rien. Oui, mais ça n'apporte rien.
Ouais,
ça faut l'enlever juridiquement. Non, ça n'apporte rien du tout.
Oui, mais est-ce que la République, c'est nécessaire, je crois.
Alors,
situer le contexte politique. Parce que c'est politique, là.
Si on reste sur l'analyse juridique, c'est notre objectif, toujours. Est-ce que ça a du sens? Alors, notre phrase, est-ce qu'elle a du sens? Mais aussi, tout ce qui veut rien dire, on l'enlève.
Ouais.
Bon, donc, si j'enlève, alors on va raisonner un peu en maths, enfin, on raisonne par l'absurde, par un non, non, mais si j'enlève cette phrase, est-ce que ça change quelque chose?
Non.
Bon, si,
À partir du moment où dans une définition juridique, tu enlèves la moitié d'une phrase et puis que ça ne change rien, autant l'enlever. Hein. Par contre, si effectivement on dit, là c'est une variante, là on n'est plus dans l'analyse critique, ça c'est bien, c'est vrai, c'est bien, mais on est dans l'amendement. Bon, l'amendement, le tout étant constitutif de l'intention de la République. Bon. Non mais c'est intéressant de le dire, et puis on se garde en mémoire, et ça nous fait avancer dans notre expertise. Bon, donc ça on a vu ça. Alors libre, maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur libre? Moi j'enlèverais, enfin je trouve que ça n'apporte rien. Sauf si on dit, alors là c'est pareil, même raisonnement, sauf si on dit, est une condition de la liberté. C'est-à-dire que si tu n'as pas de service public, t'es pas un homme libre.
Moi je pense qu'il y a un peu de ça.
Ah mais non mais, c'est pas un peu, il y a ça ou pas ça?
Disons que ça favorise la liberté. Le service public favorise la liberté.
Oui, mais c'est pas un truc juridique de dire que ça favorise la liberté. C'est pas juridique, c'est un manuel de. Voilà, un manuel de bon conseil.
Oui, qui permet aux citoyens d'exercer leur liberté.
Oui.
Voilà. Alors, si tu dis le service public est un outil qui permet aux citoyens d'exercer sa liberté, tu avances déjà dans une définition de liberté, parce que tout à l'heure j'ai parlé de démocratie pas définie, service public pas défini, liberté pas définie non plus. Hein.
Ah oui, bon, là, puisqu'on est question d'exercer les lois fondamentales, si on dit qu'un droit fondamental c'est la liberté,
Attends.
Alors, les droits fondamentaux, c'est des articles cités derrière.
Parce que je comprends la liberté, là. Mais si, comme on dit, c'est pour exercer leur liberté, mais que de toute façon, la liberté, c'est un droit fondamental, comme c'est écrit là, il n'y a pas besoin de dire d'hommes et de femmes libres.
Ouais.
Parce qu'un droit fondamental, c'est d'être libre. Donc,
Bon. Il faut en tous les cas que dans les droits fondamentaux, il y ait la notion de la liberté.
Voilà.
Ok, donc là c'est. Alors, de toute façon, notre but c'est pas de. On lance des questions, on voit les failles, hein, c'est pas de faire une réflexion. Donc voilà ce qu'on peut dire sur libre. Hein, voilà ce qu'on peut dire. Bon. Alors, les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux c'est 10, 11, 12, 13.
Il parle même de l'article 9. Hein. Alors, l'alinéa 9, pardon, c'est pas des articles. Et l'alinéa 9, t'as vu ce que c'est.
Mais c'est lui.
Oui.
Oui, alors l'alinéa 9. Bon.
Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole, de fait, doit devenir propriété publique. C'est quand même. C'est un peu fondamental par rapport au service public, malgré tout, il me semble, comme.
Alors.
L'alinéa 9.
Non, mais. Ouais.
Disons nous là, c'est le truc que tu.
Non, c'est la préambule. C'est le préambule.
Ce que j'ai envoyé là, il cite les 9, les articles 9, 10, 11, 12 et 13 du préambule. Voilà.
Bon, ce qui est contenu, la proposition de la CGT là, ce qui est contenu dans le droit fondamental, c'est tout simplement les articles 9, 10, 11, 12 et 13 du préambule. Donc du coup, on étudie. Ces articles.
D'accord.
Bon. Alors, l'article 9, excuse-moi, mais là, c'est le chat se mord la queue. Là.
Oui.
Oui. C'est le chat qui se mord la queue. Parce que justement, on est en train de réfléchir. Non, la faille de l'article 9, c'est que. Il parle de service public et il ne définit pas.
Oui.
Bon, c'est ça la faille. Donc tu peux pas dire que dans les droits fondamentaux, il y a le 9. Le 9, je vais vous le lire. Hein. Oui. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation acquiert les caractères d'un service public.
Oui, non, ça ne veut rien dire.
Si tu n'as pas défini le service public, ouais. Tu ne peux pas le dire. Comment peux-tu savoir si tel bien ou telle entreprise à qui les caractères d'un service public? Comment tu peux le savoir? Tu ne veux pas le savoir.
Oui, parce qu'en fait, tu définis le service public par rapport aux articles.
Alors, ou d'un monopole. Alors, le monopole de fait, là, on, pour le coup, on comprend ce que c'est comme n'importe le fait. Ça nécessite qu'on s'y arrête 5 minutes. Hein. Bon, on va le faire après. On l'a déjà un peu effleuré, parce que dire...
Le 9, on l'avait déjà vu.
Oui, oui, oui. Non, mais le 9, on a tout de suite dit, oh là là, il y a un problème du service public, et donc, bon. Mais on a, je pense qu'on a très peu parlé du problème du monopole de fait. Monopole de fait, du point de vue de la définition, moi, ça me paraît clair, bon, sauf à ce que quelqu'un ne soit pas d'accord. Mais ça veut dire... Parce que il aurait fallu la découper en deux, cette phrase. Ça veut dire tout bien, toute entreprise dont l'exploitation est devient un monopole de fait doit être nationalisée. C'est bien ça, intervenant. Doit devenir propriété publique.
C'est ça.
Ok.
Ouais. Alors, bon. Ça, je vous propose d'en parler après, parce que c'est extrêmement important. Hein. Attention. Hein. Là, il y a un...
Oui, mais bien sûr.
Il y a un loup.
On a vu l'article 9 de la...
Il y a un énorme loup, là. Bon, alors... Donc...
Non.
Non, c'est ça. Alors... Bon. Donc, l'article 9... voilà. Alors, le 10...
Le 10.
Le 10. La loi, la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
Bon, franchement... Quoi ?
Alors, vous savez tout ce qu'ils ont pensé. Bon, je vous dis d'abord...
C'est recontextualisé.
Développement en 1946, c'est pas le même développement.
Bah oui, bah oui. Je pense que c'était sûrement favorisé... Favoriser les enfants, etc. C'était
attendez, on part chacun son tour. Hein.
D'accord.
Alors, vas-y, non, mais...
Je sais pas, moi, je pense que c'était effectivement développer la famille en nombre, parce qu'on avait besoin de... On avait besoin de main-d'œuvre, quoi. Hein. Il me semble, je ne sais pas. Non, la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Alors, soit le développement, il y a les deux, il y a aussi le développement intellectuel, etc. Quoi. Je veux dire, c'est. Il y a plein de choses derrière, quoi.
Il y a tellement plein de choses que c'est pas. Bon. Oui,
alors, c'est... Un par, bien.
Moi, je vois les choses comme ça, c'est qu'on est après-guerre, il n'y a plus rien. Donc, il y a besoin d'un développement, donc on assure le développement nécessaire à une famille, comme tu dis, ou au peuple en général, ben dans le travail, dans tout, parce qu'il n'y a plus rien, tandis qu'il faut bien...
Oui, je pense que c'est ça.
Mais il
n'y
a rien d'éternel.
Ah non, mais c'est flou, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est
vrai.
C'est le alors, jugement
de la société. Tu veux dire ?
Pas clair, pas précis.
Ouais, après, oui. Le problème, c'est que l'écueil, c'est qu'on risque de tomber trop dans la précision. C'est que si tu es trop précis, ça peut jouer en ta défaveur.
Ou alors, on peut très bien être précis, mais en laissant une ouverture.
Ça, oui.
Tu vois ce que je veux dire ? En disant liste minimum, par exemple, voilà. Et après,
avec voilà. Mettre le minimum.
Voilà.
On sait pas de quoi on parle.
Ben,
c'est
logement,
son
droit,
enfin,
c'est pas les besoins.
Non, il faut le préciser.
C'est clair qu'il y a, voilà, c'est un peu...
Il y a tellement de besoins, il n'y a plus rien. Donc, en fait, il faut aider à...
Mais c'est quoi, les besoins?
C'est vivre, c'est le travail,
c'est boire, manger, soigner...
Le logement, oui.
Alors,
le problème, c'est qu'il est écrit aussi à l'individu. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là, à cette période-là ?
Ah ben, l'individu et la famille, c'est-à-dire qu'il prend les deux entités, un individu seul, un célibataire, le citoyen pris en tant qu'individu...
Et en tant que famille.
Et pris en famille. Donc, on a deux entités hein, qui...
Il y a, derrière, il y a la santé, il y a la sécu, là. L'individu qui est malade, on doit le soigner, quoi.
D'ailleurs, quel intérêt de préciser l'individu ou la famille ? Un individu, une famille, obligatoirement des individus à l'intérieur.
Oui, mais il y a peut-être des...
Après, la famille, c'est favoriser le nombre d'enfants, par exemple. Hein. C'est des allocations familiales, c'est tout ce qu'il y a derrière.
Je vais essayer de répondre à deux, trois éléments qui ont été donnés là. D'abord, Pierre Jacques aussi, je ne pense pas, encore une fois, qu'on soit là pour dire ça a été écrit parce qu'on pensait que, ou bien ça veut dire. On n'a pas à interpréter ce que ça veut dire. Soit ça veut dire quelque chose, soit ça ne veut rien dire. Non mais, bon, ça c'est le premier point. Non mais.
Il faut, de toute façon, le but du jeu, c'est il faut pas recontextualiser si c'est appliqué maintenant.
Voilà. D'une part, on n'a pas à recontextualiser, mais on n'a pas à dire oui, mais ça veut dire que non, c'est signifiant ou c'est pas signifiant. Bon, premier point. Deuxième point, pourquoi individu et famille? Bon, là par contre, pourquoi pas? Parce que ça veut dire qu'on indique un principe, un concept, une piste pour l'individu et pour la famille aussi. Un principe, c'est quelque chose qui va pouvoir se décliner dans des modes d'action. N'oublions pas que la Constitution, elle établit des principes, et ensuite il y a les codes juridiques derrière qui font des lois qui ne peuvent pas être contraires à la Constitution. Donc si la Constitution dit qu'il faut faire un certain nombre de choses pour les individus et pour la famille, on va pouvoir faire des lois pour la famille, et on va pouvoir faire des lois pour les individus, et en se référant à chaque fois à un article de la Constitution qui dit il faut faire ça pour l'individu, il faut faire ça pour la famille. Donc je pense que le distinguo, association entre individu et famille n'est pas non pertinent.
Ça complique un peu les choses.
Mais puisque la famille...
Est-ce que tu auras un droit individuel?
Attends, je dis... Attendez.
Du point de vue de la loi, qu'est-ce que la famille est considérée comme une famille? Est-ce que c'est le noyau? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un groupe de personnes qui vivent sous un même toit, donc du coup ça sera un foyer, ou est-ce que c'est la famille au sens de la famille?
Non mais les choses évoluent.
Oui.
Je sais pas si tu chipotes pas un peu Hugo là. Non parce que bon, famille, bon. Alors après famille avec des exceptions qui vont varier. C'est-à-dire que sous Pétain, c'était pas une famille que maintenant. Bon, famille, est-ce qu'il faut être marié à l'église? Bon, ou bien est-ce que c'est un foyer de gens qui vivent ensemble, ils sont paxés, même pas paxés, ils vivent ensemble. Voilà. Bon. Donc la famille est une notion qui est une notion presque animale, hein. Voilà, c'est une meute qui vit, une collectivité. Bon, après, elle peut revêtir effectivement des caractéristiques juridiques qui évoluent avec le temps. Voilà. Mais il me semble que l'idée de le concept de famille ne mérite pas tellement d'être
plus défini.
Plus défini que ça. Hein. On peut dire c'est la famille telle qu'on la considère. Bon, ceci dit, elle a une définition fiscale, la famille. Hein. Famille, quelque chose fiscalement, c'est précis. Hein. Caution familiale, vivant sous le même toit. Bon, alors, sinon, oui, on peut définir ce que c'est que la famille, mais pourquoi pas?
Oui, mais si pourquoi on met pas un droit, moi, je rejoins Véronique, hein, si on met un droit individuel, c'est pour tout le monde. Voilà, sans notion particulière de famille, pourquoi est-ce qu'on met une notion particulière?
Parce qu'on a dans l'idée que ça va être aussi, encore une fois, principe. Ça veut dire qu'il y a des modes d'action derrière. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des lois pour la famille. Donc il faut bien qu'on définisse ce concept. Mais bon, encore une fois, on n'est pas là. Non, mais on n'est pas là pour juger de la pertinence. On est là pour dire est-ce que juridiquement c'est quelque chose qui tient la route. Ça, non, notre boulot. Donc, Hugo dit moi, j'ai l'impression que famille, ça ne tient pas la route juridiquement. Donc, on débat de ça.
Oui, je maintiens.
Oui, mais bien sûr.
Je suis d'accord aussi un petit peu.
Voilà.
Selon, je rejoins
Hugo.
C'est un peu galvaudé.
Si on met famille, il faut définir. Bon, d'accord.
Oui, mais définir, ça peut être embêtant. Ça peut être gênant par rapport
alors,
à...
Attends, ça fait deux fois que j'entends ça, je crois que c'est facile. C'est pas embêtant de définir.
Si, c'est embêtant de pas... C'est restrictif. Ça peut être restrictif. Allez, mais c'est la famille, en effet, est-ce que c'est finalement un couple homme, femme, enfant? Est-ce que c'est deux hommes, deux femmes, enfin,
est-ce que c'est une famille avec la famille?
Alors, définition Wikipédia, Une famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés. Avec ça, c'est pas gagné.
Non, ça c'est la définition de Wikipédia.
Oui. Mais, c'est pas forcément...
que tu vas trouver sur Wiki, peut-être sur un autre livre différent.
Une famille, il y a un lien de parenté.
Non, alors, bon.
Si t'es pas marié, t'as pas le lien de parenté.
Mais même si t'es marié, c'est un lien de parenté, ça ?
Ah oui, quand t'es marié, t'as un lien de
parenté. Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Donc, pas moi, pour moi, c'est des.
Non,
mais
tu
peux
l'union.
Tu peux avoir une famille sans être marié.
Mais c'est
le lien de parenté, c'est le sang.
Oui, donc t'as pas de liaison avec ton conjoint normalement, enfin de liaison sanguine avec ton conjoint, hormis les enfants derrière, mais donc
c'est une union cousin.
Sauf si ton cousin.
Oui, d'accord.
Sauf une union cousin.
Bon, il peut y avoir.
Un homme et une femme même mariés, donc ne forment pas une famille alors. D'après la définition.
Ben, le lien de parenté me paraît un peu.
Non, mais du coup.
Mais je serais comme Hugo, moi je parlerais plus de foyer.
Ouais.
D'ailleurs, on dit des foyers fiscaux, on dit.
Bon, le mot famille peut poser problème, c'est vrai.
Ouais, hein, je pense.
Bon, mais attends, alors je reviens sur ce que j'ai entendu, Véronique et aussi Bénédicte. C'est embêtant si on définit. Mais non, c'est embêtant si c'est pas défini. Bon, tu dis. Mais, attends.
Ça peut être embêtant en fait.
Non, mais tu dis, c'est restrictif. C'est le jeu du juridique, hein. C'est restrictif. Si c'est restrictif, si on n'arrive pas à définir, on ne définit pas. Mais si on définit, définir, c'est restreindre.
Oui, c'est clair.
Oui, d'accord.
Ça, c'est sûr.
Mais il ne faut pas trop donc être restrictif non plus. Par exemple, pour parler de famille.
Mais c'est pas. Il n'y a pas de faux. Enfin, faux, je veux dire, il n'y a pas. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut être clair. Alors, soit on ne veut pas définir. On ne parle pas, voilà. Mais à partir du moment où on parle de quelque chose, il faut que ce soit défini.
Oui.
C'est ça la frontière.
Alors, bon,
par exemple, le terme foyer, dans ce cas-là, en effet, est peut-être plus large du coup. Il n'y a pas de notion
bon,
de
alors,
lien de parents.
Ce qu'on peut dire là, je pense que c'est que le terme famille, il n'est pas clair.
Bon,
il n'est pas clair, il nous paraît être insuffisant. D'un point de vue de la rigueur juridique.
Oui.
Voilà.
Pour moi, il est très clair, mais bon, après. Moi, c'est un père, une mère, des enfants, et qui éduquent leurs enfants. Correctement.
Enfin, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu fais de papy, mamie, et ton frangin, ta frangine
C'est pour ça qu'il parlait de lien de parenté, quoi.
Tu peux très bien dans la définition.
Deux heures ensemble, ça fait bien.
Il y a. Bon, je vous propose de. Non, je vous propose de pas nous attarder là-dessus. Ça veut pas dire qu'on le reparlera pas. Attendez, ça veut pas dire qu'on en reparlera pas. Mais il y a un problème. C'est vrai.
Mais ça, c'est les articles de la préambule, enfin du préambule.
Oui, non, mais là on est sur le préambule. Hein.
Oui.
Là, on est sur l'analyse des choses qui existent. On est sorti de la CGT, on va y revenir. Mais puisque ça, c'est dans le fil, on continue.
Ouais.
Bon. Donc, et là, on est dans le préambule, on est dans l'analyse critique de l'alinéa 10, l'article 10, il y en a qui disent alinéa, d'autres qui disent article, alibi des familles. Il y a la famille, c'est. On n'est pas tous d'accord sur le fait que ça soit juridiquement recevable. Mmh. Bon. Après, je pense que ça fait partie encore des choses, après les noter à chaque fois. Il faut parler de la notion de famille, oui. Juridiquement, ouais. Est-ce que ça existe juridiquement, d'ailleurs ?
Que veut dire caution familiale ?
Oui, mais voilà, tu vas avoir des fragments qui existent. Ouais. Fiscalement, d'ailleurs, fiscalement, c'est éclaté. Parce que, oui, mais voilà, c'est éclaté. C'est-à-dire qu'il y a, tu peux opter pour la fiscalité globale de la famille, tu peux opter pour ce qu'on appelle l'imposition séparée.
Ouais. Enfin, pas quand t'es
après, les enfants, ça dépend s'ils habitent ou pas, etc. C'est à géométrie variable. Fiscalement, la famille est à géométrie variable.
De toute façon, on parle de foyer fiscal, on ne parle pas de famille fiscale.
Non,
oui, oui, alors, foyer, famille. Bon.
Foyer
donc, c'est vrai que juridiquement, famille, Bon, c'est quand même pas quelque chose qui s'impose comme étant 1 plus 1 égale 2. Hein, c'est pas. Voilà. Ensuite, alors les linéaires.
11.
Ah non, attends, on n'a pas fini là. Indivisible. Les conditions nécessaires à leur développement. Alors, Pierre nous a dit. Oui, ça doit vouloir dire ça, parce qu'à l'époque, derrière. Non, mais bon, peut-être. Bon, aujourd'hui, quand nous lisons, la nation assure à l'individu. Supposons qu'on aille à la famille, voilà ce que ça donne. La nation assure à l'individu les conditions nécessaires à son développement.
C'est formidable, ça.
Non, oui, enfin, bon, non, c'est. Non. c'est formidable.
Bien sûr.
Ça ne veut strictement rien dire. Ça n'a aucun sens.
Si, ça a beaucoup de sens.
Ouais.
Le problème,
ça a tous les sens.
Ça a énormément de sens. Tout ce qui est nécessaire à son développement.
Alors,
c'est à la fois l'alimentation, mais l'alimentation
au niveau
du cerveau aussi, etc. Le logement.
Oui, mais alors, bon.
La formation.
Très bien. Puisque ça ne vous paraît pas évident que ça ne veut rien dire. Développons, étudions le cas où ça veut dire quelque chose.
Est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas d'inspiration biblique quand dans les testaments ils disent croissez-vous, reproduisez-vous.
Croisez-vous entre vous, c'est ça.
Croisez, reproduisez-vous.
C'est hébraïque, c'est quoi? C'est hébraïque.
Non, alors, bon, alors, revenons précis.
Ouais.
La nation. J'enlève la famille, parce que d'ailleurs, ça, c'est beaucoup plus fort. La nation assure à l'individu les conditions nécessaires à son développement. Soit, ça ne veut rien dire et on dit bon, cet article, c'est une phrase en l'air. Soit ça veut dire quelque chose, bien alors attention, si ça veut dire quelque chose, ça va loin. Hein. Ça veut dire que la nation, c'est-à-dire que l'État assure le développement de chaque individu.
Donne les moyens, les conditions nécessaires. C'est-à-dire une école publique, gratuite, etc. Quoi. Entre autres, ça.
C'est les soins, de permettre à un individu de se développer. Quoi.
C'est justement pour ça que ça a été cité par rapport à la définition des services publics. Parce que bon. ça va donner naissance à différents services publics qui sont là pour justement
d'accord.
permettre à la personne
bon.
De se développer.
Donc on part là-dessus. Hein. Martin.
Non, mais c'est une interprétation.
Ah non, mais.
Mais le problème, c'est que c'est imprécis sur quel individu. Parce que si cet individu, c'est un riche, par exemple, un riche promoteur ou un riche capitaliste. La nation va l'aider aussi.
Ah oui, oui,
ça,
oui. Ah oui, oui, mais c'est. Non, enfin, ça c'est le principe.
Le libéralisme, en fait, l'ultra-libéralisme, c'est ça que
je veux
dire.
Non, encore plus. Et on peut le donner parce qu'il a déjà tout.
Oui, non, mais.
Mais indistinctement,
ses enfants.
Parce que là, tu es en train de dire que la sécurité sociale, c'est propre au libéralisme. Bon, ça me choque un peu.
Ses enfants ont le droit d'aller à l'école.
Bah, et lui, il a droit à l'eau, à un logement, peu importe. Après,
non, mais on n'a pas à en tenir compte, Martin.
Bah, oui.
Martin, on a à tenir compte. Non, on n'a pas à tenir compte des spécificités des uns et des autres. On parle de service public. Je reste dans l'analyse. On parle de service public et on dit la nation assure à l'individu, quel qu'il soit. Hein les conditions nécessaires à son développement. Son développement, ah ben c'est tout ce qu'on a listé, santé, éducation, culture. Bon. C'est la nation qui assure les conditions. Donc c'est très fort. C'est très très fort. Et effectivement, c'est tous les individus. Même s'il est.
Oui. Même s'il est handicapé, hein.
Oui, mais même s'il n'est pas handicapé. Non, mais même s'il n'est pas handicapé, bon, même s'il est favorisé par la.
Pourquoi c'est pas un handicap?
Même s'il est né grand, beau, riche, intelligent, en bonne santé. Même
doué
si...
et modeste.
Voilà. Non, doué et arrogant, et ben malgré ça, il a droit à tout.
Il a droit.
Bon.
Il y a le droit, mais t'inquiète pas, il n'y aura pas.
Alors, ensuite, la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, la mère et aux vieux travailleurs. Bon, donc là on va décliner, hein, la santé, la sécurité matérielle, le repos, les loisirs.
C'est formidable.
Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou de mental, ou de sa situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Bon.
Mais pourquoi là, c'est sectaire aussi, enfin, on cite certaines personnes, mais là aussi c'est tous les individus.
Bah oui.
On peut très bien tout regrouper dans
les individus.
Le 10, quoi. Enfin,
bah oui, mais elle garantit ça à tous. Bah oui, c'est à tous.
Non mais.
Mais non, mais il n'y avait pas besoin de préciser, notamment à l'enfant. Quoique, parce que là encore pareil, c'est historique, quoi. À l'époque, l'enfant n'avait pas vraiment.
Non, mais on a dit qu'on ne parle pas d'historique, là. Non, est-ce que ça tient la route?
Maintenant, ça ne tient plus la route, ça.
Mais pourquoi on fait ça?
Non, je supprimerai tous les exemples, à tous.
Le problème de tous, ça peut être imaginé comme tous les citoyens. Et les enfants, c'est pas encore des citoyens. Donc,
on a dit tous les individus, on n'a pas dit tous les citoyens. Tous les individus.
Ben là, il met pas.
Oui, effectivement.
Et ben, moi, je remplacerai par les individus. Le numéro du chemin, vous êtes plus.
Tous les individus.
Oui, tout à fait.
Oui, mais. De mettre à l'individu, c'est tous les individus.
Ah, attention, on n'est pas dans la on n'est pas, s'il vous plaît, on n'est pas dans la réécriture. On est dans l'analyse. Est-ce que ça tient la route?
Oui.
Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est cohérent?
Oui, à part le recours, là,
je vois. Ah, ça justifie.
Ah, bah, dis-moi.
Alors,
dimanche.
Je vais vous donner une piste. Enfin, bon, demandez ce que vous en pensez. J'entends dire pourquoi est-ce qu'on dit notamment l'enfant, la mère et aux vieux travailleurs. N'oublions pas que la Constitution, c'est une voûte centrale qui affirme des principes qui doivent être clairs, s'ils ne sont pas clairs, on est là pour le dire, mais qui ensuite vont pouvoir se décliner en règles d'application. Bon, pourquoi dire notamment à l'enfant, à la mère, aux vieux? Parce que ça va pouvoir permettre de faire des lois spécifiques pour les enfants, spécifiques pour les mères, spécifiques pour les vieux. Voilà. Donc de ce point de vue-là, me semble-t-il, ça tient la route. Après, encore une fois, toujours faire attention, le fait qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est après, c'est pour plus tard, hein. C'est l'année prochaine, après les vacances. Hein. Pour l'instant, on décortique. On dit juridiquement ça tient la route ou pas. Bon. Quand on dit c'est inutile, on le dit. Là, on peut très bien valider ça dans la mesure où elle garantit notamment, ça veut dire qu'il peut y avoir spécifiquement. Si on met rien, effectivement, des lois globales. Bon, il peut y avoir des lois spécifiquement pour l'enfant, spécifiquement pour la mère ou spécifiquement pour les vieux travailleurs. Bon, ensuite, si on regarde bien les secteurs qui nous sont proposés, attention, on a des secteurs qui sont écrits dans la Constitution. Mmh. Et notez-les bien parce qu'ils ne vont pas être. Vous allez les retrouver nulle part ailleurs après. Hein. Mmh. Il y a que là qu'on les trouve. Santé, sécurité matérielle, repos et loisirs. Alors, il y en a quatre concepts là. Hein. Ils sont pas de même niveau, ils sont pas du même tonneau, ils sont pas bons. Bon, santé, ça c'est clair, la santé. Hein.
Oui, je pense.
La santé doit être un service public. Chers amis, est-ce que ça en est un? La réponse est non.
Pourquoi la réponse est non?
Parce que la santé n'est pas un service public.
Mais actuellement.
Oui.
Mais parce que.
Donc il y a une.
Oui, mais ça c'est une proposition de. Qu'on appelle ça.
Non. C'est la Constitution. Voilà. Bon. Soit dit en passant. Donc, faut qu'on garde bien en mémoire que la Constitution dit que la santé. Voilà, c'est un service public. Enfin, c'est un service public. La nation garantit à tous, hein,
la santé.
La santé.
Après. Après, toi, tu dis la santé actuelle n'est pas un service
non, mais,
public, c'est autre chose.
C'est autre chose, c'est autre chose. Enfin, ça doit en être un.
Hein ça devrait en être un.
C'est écrit, d'après la Constitution, ça doit en être un. Alors, service public, c'est pas prononcer service public, parce qu'encore une fois, on fait le lien là, mais elle dit simplement la nation garantit
la santé à tous.
La santé à tous.
Ouais.
Bon, la nation garantit la santé à tous. Donc, après, il faut se dire, est-ce que aujourd'hui, la nation garantit la santé à tous ?
Ah ben non.
Non, mais... Voilà. Moi, je pense que non. Mais bon.
D'accord.
Voilà.
La sécurité...
Alors, par contre, quand on parle de cohérence, est-ce qu'on va trouver dans la Constitution, un peu plus loin, par exemple, quelque chose qui dit le contraire ? Non. C'est dans les codes juridiques en dessous que ça va être incohérent. Parce que l'organisation de la santé avec la sécurité sociale, etc. Donc là, on a parlé d'incohérence externe. Incohérence interne, c'est qu'il y a incohérence à l'intérieur même de la Constitution. Incohérence externe, c'est quand il y a incohérence, ça on peut le dire, incohérence entre la Constitution et la loi. Mmh. Aujourd'hui, la loi, le Code de la santé publique, elle est en contradiction avec cet article. Mmh. Ça ne garantit rien du tout. Ça te garantit à 70%. Les 30%, tu les antilles. Bon.
C'est voilà. Vrai.
Eh oui. Alors, ensuite, la sécurité matérielle. Alors là, je pense que vous en pensez, la sécurité matérielle, mais. Qu'est-ce que c'est ?
Aïe, aïe, aïe.
Matériel, il semblerait bien qu'on parle de pognon, non ?
Non.
Non.
Non,
non c'est ce qu'on appelle la sécurité financière.
La sécurité
financière ?
Bah, c'est ce que je dis.
Oui. Oh non, mais je dirais même pas ça. Non,
et on dit, on dit non.
Là. Moi, je pensais le logement, l'eau, enfin les choses plutôt comme ça.
Ah oui.
Oui.
Moi, je pensais à la sécurité physique, pas se faire agresser.
Oui, mais alors, tiens, rien qu'en deux secondes, il y a trois interprétations. Donc, sécurité matérielle, en tout cas, ça me semble ni clair ni précis.
Bon. On n'est pas d'accord.
Hein ? Bon, c'est pas clair, c'est pas précis.
Le repos.
Repos. Alors, repos, c'est pas extrêmement précis, mais on aurait un synonyme du genre congé payé quand même.
Oui, ou des congés payés, mais on n'a pas le droit à travailler 24 heures par jour.
Oui.
Les arrêts maladie, ce genre de choses.
C'est autre chose, ça. C'est pas le repos, hein. Donc, ça, c'est la garantie de la santé.
Oui.
C'est-à-dire, la santé, elle est garantie et tu as un maintien de salaire aussi. Donc, c'est garantie de santé. Tu as le droit d'être soigné et tu as le droit de continuer
à. Les aménagements horaires à ce moment-là, par exemple.
Comment ?
Les aménagements horaires, qu'on finit tard le soir et qu'on ne fait pas le soir.
Non, mais repos, on peut estimer que ce n'est pas si imprécis que ça, repos. Repos, ça veut dire que la Constitution garantit le repos. Qu'il y a des temps de repos. Bon, elle ne précise pas, mais c'est le principe qui est posé. Le principe est posé que tout individu, tout travailleur a le droit du repos. Voilà, on pose le principe. Après, repos, ça va être.
Ah, mais repos, ça implique qu'on travaille.
Oui ? Ah ben attends, mais. Hey, on en a assez parlé, hein, c'est ta obligation de travailler. C'est l'obligation de travailler, on en a parlé. Non, mais c'est cohérent de ce point de vue-là.
Oui.
Hein, encore une fois, on est d'accord ou pas, mais c'est cohérent. Bon. Alors, repos et loisirs, c'est un peu pareil finalement. Alors, quelle différence entre repos et loisirs ?
Le repos, on ne s'écrit pas, on ne fait rien faire.
Le repos, c'est aussi le droit de dormir.
Alors, oui, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Garantir le
repos.
Alors, garantir le repos, on voit bien. Ça veut dire qu'il y a une loi qui garantit qu'il y a des jours où tu vas pouvoir te reposer.
Le repos, c'est une notion de loisiveté.
Le loisir, c'est la culture, en fait.
Alors, garantir le loisir. Alors, mais attends.
Entre autres,
oui.
Bon,
ça peut.
Ouais.
Un repos, c'est juste c'est la culture. En fait, c'est l'inverse du travail.
Tu reposes, tu ne fais rien.
Voilà. Loisir, c'est quelque chose.
Donc, un loisir, tu fais quelque chose.
Oui, mais c'est pas du travail.
Non.
Ah.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que, parce que Christian dit le repos, on peut considérer que le loisir, c'est la même chose. Non, pas du tout.
Je posais les questions exprès pour être contredit.
Non,
Je posais la question exprès pour tout. Non, alors, non, c'est vrai. C'est vrai. Alors, par contre, alors, qu'est-ce que ça veut dire que garantir le loisir?
Ça, c'est très compliqué.
Garantir, qu'est-ce que je peux de pouvoir,
verser un peu d'eau.
De pouvoir avoir des activités en fait, de travail et de les faire.
Mais
les faire.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire garantir le loisir?
Est-ce que ça veut dire, par exemple, mettre à disposition des activités culturelles, par exemple?
Ou sportive,
même sportive.
Sportive,
culturelle, sportive.
Non, mais on
veut. Ouais. Ah, c'est un manque de précision.
On met à disposition des
modèles. Non, parce que de toute façon, l'éducation populaire, ça a déclenché.
Véronique, Bénédicte.
Ça a déclenché l'éducation populaire, ça. C'est-à-dire qu'on a mis à disposition des centres sociaux, des centres aérés, pour que les enfants s'aèrent et des activités. Voilà, et c'était public, ça faisait partie du service public à un moment.
Ouais.
Je suis sûre que ça venait. Une fois de plus, on est dans du contextuel. Mais c'était ça, le loisir. Et c'était gratuit pour les gens qui n'avaient pas d'argent.
C'est non, mais aujourd'hui, gratuité. Aujourd'hui, là.
C'est la gratuité.
On lit la constitution.
C'est encore gratuit, ça marche aux questions familiales.
Alors, bon, aujourd'hui, aujourd'hui on lit la constitution. Elle nous dit que la nation garantit à tous les loisirs.
Voilà. Donc le droit d'aller au ski, au reste de neige.
Tu crois que le chômeur, il a
une colonie de vacances.
Il a droit au loisir.
Voilà.
Garantie.
Hein?
Quand tu vois le prix du musée.
Alors, deux choses. Garantie de loisirs. Bon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est cohérent? Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on comprend?
Précis.
Oui, on comprend. Bon. Précis, est-ce que c'est précis, garantie de loisirs?
C'est vague.
Non, ça englobe tous les loisirs. Donc,
mais le fait que ça englobe tous les loisirs, ça ne veut pas dire que c'est imprécis, c'est précis. Non, c'est si on dit que ça englobe tous les loisirs.
Ça ne veut pas dire que ce soit imprécis.
C'est clair.
Les loisirs, c'est clair. Ouais.
Est-ce que c'est cohérent? C'est-à-dire, est-ce que ça correspond à des dispositions juridiques qui existent?
Oui.
Moi, je pense pas.
Oui?
Moi, je pense que oui.
Oui.
Après, sûrement pas assez, quoi. Moi j'aimerais bien aller à Disneyland Paris, c'est un loisir, mais là, comment on fait? Ouais,
tu vas avec les gilets jaunes, tu verras, ils montent à Paris régulièrement.
Alors,
est-ce qu'il faut que je fasse une requête?
C'est ça, c'est ça.
Je
suis pas à Disneyland.
Alors, si on...
Pourquoi pas?
Les centres de loisirs, ils ont des règlements, il y a des réglementations pour les centres de loisirs.
Oui. Non, mais... en fait, c'est le loisir du choix, il fait ce qu'il veut.
Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que l'État garantit qu'il y a une offre de loisirs gratuite? C'est-à-dire que n'importe qui se dit, tiens, je voudrais profiter de ce que l'État veut garantir dans le loisir, qu'est-ce que vous avez dans le catalogue? Non, mais bon, si c'est ça... Pour nous, c'est précis.
Pour les étudiants, les musées sont gratuits, par exemple. Il y a une offre culturelle.
Oui, mais
le musée des Confluences, le
musée moins cher.
Oui, il y a des réductions.
Et par exemple, tous les musées ne sont pas gratuits.
Moins cher aussi. Tous les musées ne sont pas gratuits pour les étudiants.
Non, bien sûr que non.
Je sais qu'ils sont du département qui sont
dans la nationalité. Non,
mais par exemple, les bibliothèques, l'accès à la bibliothèque, c'est gratuit. Ça, c'est un service public. Tu vois, et il n'y a pas que ça. Je te parle de l'éducation populaire parce qu'effectivement, c'est de cette époque-là, et que les centres aérés, c'était gratuit pour les gens qui n'avaient pas d'argent. Et ça fait toujours normalement. Tu vas à un moment là, le centre de loisirs, il y a plein de gens qui ne payent pas. Ils mettent tous les mercredis et pendant les vacances scolaires leurs enfants au centre de loisirs. Et ça leur propose des loisirs. Ils vont à la piscine, ils ne payent pas. C'est un service public. Et les centres sociaux, il y en a qui dépendent encore de l'éducation populaire et donc du service public.
Mais là, tu nous cites, on nous cite un certain nombre de choses à tel et tel endroit, il y a ça. Est-ce qu'il y a...
C'est général normalement, mais ça s'est perdu ça.
Non mais
là, il y a marqué la garantie à tous. Ouais. Tous, c'est tous. Tous. C'est pas
que les pauvres. Voilà,
ça,
on en revient à ce
qu'on disait.
Aujourd'hui, encore une fois, on ne met pas le truc dans son contexte, aujourd'hui, je lis la Constitution. Je vois que la nation garantit à tous une offre de loisirs.
Hein, mais il dispose gratuit,
alors, est-ce que c'est précis? On peut considérer que c'est précis dans la mesure où il faut qu'une offre existe. On ne nous dit pas que l'offre doit être importante ou pas importante. Il doit qu'il y en ait encore une.
Ben, la bibliothèque, c'est gratuit.
Comment?
Les bibliothèques, c'est gratuit.
Pas toutes.
Non, toutes.
Si on prend la bibliothèque municipale,
non,
c'est gratuit. Mais moi, je paye
pas toutes.
Pas toutes. Pour sortir les
livres, tu payes ta carte. C'est ma carte. Tu payes que ta carte, mais pour une adhésion.
Mais donc, c'est pas là.
C'est une association.
Non, mais c'est
une bibliothèque. Tu peux rentrer dans une bibliothèque, vous qui
l'ayez,
et
tu n'enlèves pas le livre.
Voilà, excusez-moi, c'est un service public.
Par contre, si tu veux, effectivement, si tu consultes dans la bibliothèque, ça doit être
gratuit. C'est gratuit, voilà. Là, oui, je pense. Ah oui, c'est
gratuit. Oui, mais c'est les bibliothèques.
Non, mais attendez, en sortant de l'anecdotique.
La question dit, on s'en fout de combien il y a d'offres. En tous les cas, ça existe.
C'est pour ça que c'est tout à fait précis. Le fait que ce soit pas précis, c'est peut-être un petit peu jeune. Alors après, il y aura un truc extrêmement vaste. Mais bon, les loisirs, on n'a pas le choix de tous les loisirs. Quoi.
Oui, non, mais pour que ça soit considéré comme étant quelque chose de précis, il faut qu'il y ait une offre substantielle et conséquente. Est-ce que il y a. Oui, on peut accepter que ce soit précis si on considère que garantir à tous les loisirs, ça veut dire que l'État offre un catalogue de loisirs, un joli catalogue de loisirs, dans lequel chacun doit pouvoir trouver ça ou ça. Bon. Est-ce que ça existe aujourd'hui?
Non. Je ne sais pas. En tout cas, c'est payant, quoi.
Oui. Non, mais est-ce qu'il y a un catalogue de loisirs substantiel ou pas?
Non.
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 Voilà. Donc c'est pas cohérent.
Hein?
C'est pas cohérent avec le corpus du.
C'est pas cohérent.
Bon.
Et on a bien dit que les services. Attends, excuse-moi, Christian, parce que je reviens sur un truc qu'on a dit la semaine dernière. On a bien dit que les services publics peuvent être payants ou gratuits.
Attends, non, Véronique, là on est sur l'article, l'alinéa 11.
Ouais.
On n'est pas sur le. Là, le service public, c'est la façon dont le voit la CGT. La CGT, pour l'instant, le service public, il n'est pas défini. L'exercice qu'on fait aujourd'hui.
C'est ce qui est écrit là ou qui commence à.
Non, mais il n'est pas. Il n'est
pas défini dans le préambule.
Ah non, il n'est pas.
Il n'est pas défini dans la Constitution. Là, on fait un exercice. C'est vrai qu'on mélange deux choses. Hein,
oui,
bien,
oui, c'est vrai.
On mélange deux choses. On fait un exercice de critique de rédaction juridique hors Constitution. La semaine dernière, c'était le travail du groupe que je vous ai proposé. Là, c'est
là, on est en train de
remettre. C'est une rédaction. Voilà. La CGT dit le service public, c'est quelque chose qui garantit les droits fondamentaux. Et ces droits fondamentaux, c'est les alinéas 10, 11. Donc, du coup, on repart. C'est vrai que. Non.
Bon, ben, normalement, on ne devrait pas en parler de ça. Si on voulait parler que de la définition du service public. C'est derrière qu'il faut
regarder. Oui, mais bon, puisqu'on y est, bon, il faut jongler entre les deux trucs. Hein. Là, on est sur la critique de quelque chose qui existe.
Oui.
Là, on est sur la critique de quelque chose qui n'existe pas.
Oui, tout à fait.
Qui cherche à être défini.
Voilà.
Donc, je pense que c'est une gymnastique intellectuelle qu'on peut faire.
Ah bon,
hein, voilà. Alors, pour rester sur l'article 11, c'est la Constitution, c'est le truc qui s'applique. Elle nous dit que l'alinéa 11 dit que la nation garantit à tous une offre de loisirs substantielle.
Ben, je pense que
hein? C'est pas cohérent avec ce qui se passe.
Non.
Bon. Ensuite, tout être humain qui, en raison de son âge ou de son état physique, mental ou de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir la collectivité des moyens de combattre l'existence. Ça me paraît être une définition intéressante de la notion de solidarité.
Mmh. Mais qui n'est pas appliquée.
Oui, mais elle est claire.
Alors,
Est-ce que c'est clair?
Des moyens convenables d'existence. Bon, alors, je crois que le comment ça s'appelle le revenu minimum.
Ah, mais dis pas que ça piquait.
Mmh. Attendez, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on comprend?
Oui.
Bon. Est-ce que c'est précis?
Oui.
Pas moins simple.
Ben, moyens convenables, alors c'est pour ça que je vais essayer de finir ce que je voulais dire. Les moyens convenables d'existence, ça veut dire qu'il faut au minimum être au-dessus du, comment on appelle ça, du seuil de pauvreté, quoi. C'est-à-dire 900 euros par mois. C'est dommage, la copine qui actuellement a été licenciée de la police, là, qui vient de temps en temps, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle a perdu son beau-père. Elle vit actuellement avec 500 euros par mois.
Ça, c'est pas mal.
Voilà. Parce qu'elle a été licenciée abusivement de la police. C'est quand même fou comme histoire.
Non. Donc, c'est précis.
C'est pas piqué.
Et ça n'est pas piqué.
Et c'est pas cohérent.
Il y a aussi des retraités qui vivent avec des mères de famille qui ont retraité officiellement, puisqu'elles ne sont pas élevées par des
enfants. Bien sûr.
Donc, la Constitution garantit que, quelles que soient les raisons de difficulté qu'on a, la collectivité, on a droit à un revenu convenable.
Convenable.
Vous dites quoi, convenable?
C'est... Ah, ben, convenable, c'est précis, c'est convenable. Hein.
Ben, c'est au moins au-dessus du seuil de pauvreté.
C'est ce que réclament les gilets jaunes.
C'est au moins au-dessus, mais ça devrait être le SMIC.
C'est pour vivre.
Alors, question de...
Si on estime qu'on peut vivre avec le SMIC.
Est-ce que le mot convenable, c'est précis et c'est suffisamment précis?
Non.
Ben, bien sûr que non.
Non.
Convenable, c'est arrivé.
Des revenus nécessaires à
faire. Parce qu'à mon avis, le convenable pour un capitaliste et le convenable pour un pauvre, c'est pas la même somme.
Exactement. Moi, je trouve que le convenable, c'est plutôt 3 000 euros par mois.
Non, non.
Ah, ben oui.
Ah, c'est pas 1 500.
Et, voilà, ça, c'est pas convenable.
On est d'accord.
On n'est pas là pour donner chacun son avis sur
l'idéologie. Non, mais c'est pas précis.
Alors,
ça manque de précision. Alors,
si tu dis que c'est pas précis, dis-nous pourquoi c'est pas précis.
Parce que convenable, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Moi, chacun peut penser différentes choses.
Voilà, je suis dans cette situation-là, j'ai plus de moyens d'existence. Qu'est-ce qu'on peut. Bon, qu'est-ce que je suis en droit d'exiger?
Si j'ai une liquidité convenable, c'était 900 euros, parce que c'était le seuil de pauvreté. Moi, je vais dire convenable, c'est le SMIC. Et Nick, elle va dire, bah non, c'est 3 fois le SMIC, parce que, de toute façon, le SMIC, c'est vraiment rien. Bon, convenable, c'est pas
clair.
Non,
c'est... Alors, convenable, c'est pas... Qui pense que convenable, c'est précis?
Ah bon, c'est vraiment...
Qui pense que... Parce que t'as l'air d'être une minorité. Qui pense que convenable, c'est précis? Toi, tu penses que c'est précis? C'est tout? Martin pense que c'est précis, convenable.
Mais si c'est précis, ça va aller pour tout le monde, mais c'est pas le cas. Donc...
Comment, Hugo?
Si c'est précis, ça devra faire...
Quelle est la notion de... Attends, on n'a pas... Qu'est-ce que tu...
Ah, c'est une assiette pleine, voilà.
Qu'est-ce que tu...
Il faut que ça fasse pleine à soi, précis, vraiment, il faudrait que ça fasse l'unanimité, qu'on arrive à tous se mettre d'accord sur
ce qu'on entend par contre, là,
sur
Non, attends, là. Attends, soyons rigueur intellectuelle. Tu dis, ce serait précis si tout le monde était d'accord. Enfin, d'abord, chacun s'exprime pour dire s'il trouve que c'est précis ou pas. Bon, après, si c'est pas précis,
faut dire. Tout le monde t'a dit que c'était pas précis.
Non, Martin trouve que c'est précis. Moi, je trouve que c'est précis aussi. Bon, alors, je vais essayer de défendre mon avis. On est là pour. Essayer de défendre.
Bien sûr.
Il y a une petite astuce quand on n'arrive pas à définir quelque chose. C'est de prendre le contraire. Et je dirais, c'est précis parce que convenable, c'est le contraire de ce qui n'est pas convenable.
Oui.
Voilà. Et donc, pour moi, c'est très précis. C'est-à-dire, si on donne 500 euros par mois pour aider quelqu'un, c'est pas convenable. Précis, ça. 600, c'est pas convenable. Voilà. Si tu transformes convenable en contraire de non convenable, tu vas voir que ça va être beaucoup plus précis. C'est comme la justice. La justice, tu n'arrives pas à définir. Par contre, tu mais vois attends, très bien ce qui est injuste.
Tu t'arrêtes à quelle somme?
Non, justement, on ne parle pas d'une somme, on parle de terme.
Non, c'est le terme. Voilà.
Elle a compris. Bon, c'est-à-dire que tu vas. Voilà, on va dire, on est tous. On n'arrive pas à mort. On va, par exemple, on est investi du pouvoir de décision de mettre un chiffre. Et on a simplement un principe constitutionnel qui nous dit attention, le chiffre doit surtout ne pas être non convenable. Voilà. On n'a que ça. Voilà l'énoncé du problème. Ben vous allez voir que ça va être beaucoup mieux. Ça va être assez facile à faire. Hein. Alors évidemment, si tu prends le truc dans l'autre sens, moi je voudrais que ce soit 3000. Non, prenons-le dans le sens minimal, c'est-à-dire il faut pas que ce soit non convenable.
C'est le contraire de convenable, c'est inconvenable.
Oui. Si tu veux.
Pour moi, on n'arrivera toujours pas à se mettre d'accord sur une limite quand on
parle. Sur un montant.
Un montant.
Bah, disons que.
Même dans ce sens-là. Les derniers. Non, mais... Effectivement, ce que dit Martin en sens fondable, si la personne est intro, elle mange, elle peut se déplacer, elle peut avoir des loisirs, elle peut tout ce qui était avant d'ailleurs, en plus, elle peut se soigner, tout ça. Si cette personne-là, elle a tout ça, si on ne parle pas d'argent, bah, ok.
Alors.
Pas de problème. Mais.
On ne peut pas mettre dans une constitution un chiffre.
Bah, bien sûr que non.
Oui.
Alors, oui.
Ça, par exemple, ça n'existait pas à cette
époque-là. Supposer que ça existe. Mais par contre.
Il y en a qui aiment bien.
Mais non, mais c'est.
Le mot convenable permet, par exemple, de faire un référendum. C'est-à-dire. Est-ce que vous trouvez que 500 euros c'est convenable? Et puis tu demandes aux gens. Bon, si la majorité trouve que c'est convenable, très bien. C'est que c'est convenable.
Oui, mais si on retire l'argent par exemple, et puis on dit juste les moyens d'existence, il faut que ce soit.
Vous avez garantie.
Garantie. À ce moment-là, l'État paye pour tout.
Et puis, comment
l'État paye pour tout. C'est-à-dire, la personne. Elle n'a plus les moyens. Elle se trouve dans un immeuble, elle a un logement, machin, il faut qu'elle s'achète à manger et tout. Et ben, à chaque fois, elle fait des factures et elle envoie l'État, elle paye.
Non, mais.
Enfin, tu peux imaginer différents systèmes. Tu
n'as pas de moyens. Oui, non, mais c'est ce que.
Moyens d'existence qu'on meuble. Voilà. Tu vois ?
Non, mais.
Il n'y a pas besoin de.
C'est-à-dire, la nourriture, le. Comment dirais-je,
logement,
les loisirs, etc.
C'est
ça. Voilà. Comment ?
Il faudrait que ce soit ceux qui ne travaillent pas qui payent, qui donnent de l'argent à l'État pour pouvoir faire ça.
Non, mais attendez, revenons à la phrase.
Ceux qui travaillent pas.
S'il vous plaît, revenons à la phrase. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler. Donc là, on étudie le cas de quelqu'un qui est en difficulté. La polémique que tu fais, c'est sur la première partie de la phrase. Tu dis, comment est-ce qu'on va. Alors, pour le coup, on peut dire, est-ce que ça, c'est pas précis? On était en train de discuter sur la notion de convenable, qui est un principe mis dans la Constitution, qui doit être l'allocation de solidarité, elle doit être convenable. Après, on peut débattre sur. Est-ce que c'est.
Les moyens d'existence convenables, ça ne dit pas une allocation, ça ne donne... ça dit pas d'argent. Les moyens d'existence, ce n'est pas forcément des moyens
c'est vrai.
Pécuniers.
Oui.
Ça peut être des moyens d'avoir
un logement.
Un logement.
Oui,
des
tout à fait. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais.
Les personnes en difficulté et elles ont droit à un logement. C'est un droit fondamental, le logement, de toute façon, aujourd'hui.
Non, mais c'est pas inscrit dans la Constitution. Hein.
Ah, c'est un droit fondamental.
Non, Bénédicte, ça n'est pas inscrit.
C'est un droit fondamental.
Ça... Il faudra le dire aux SDF.
Alors.
C'est pour ça qu'il existe un recours qui s'appelle le recours d'Allo. Si on n'est pas logé au bout de 2 ans, on doit avoir un logement. Point barre.
Voilà. Non, bon. On va en discuter. C'est pas si, il faut sortir les textes de loi. Bon, il n'y a pas de loi aujourd'hui qui oblige l'État à fournir un logement à qui que ce soit.
attends, tiens.
C'est la loi d'Allemagne, je suis désolée.
Le droit
opposable au logement.
C'est ça, c'est le droit opposable au logement.
C'est la loi d'Allemagne. Excuse-moi, Christian, c'est la loi d'Allemagne.
Qu'est-ce qu'elle dit, la loi d'Allemagne?
La loi d'Allemagne.
Bah, on l'écrira.
L'État est en obligation de fournir un logement aux personnes qui n'en ont pas.
Alors, on l'étudiera la prochaine fois, la loi d'Allemagne, parce que la loi, il faut lire tout ce qui est écrit dedans. Hein.
C'est un droit fondamental. Il y a des associations qui sont.
Alors, d'abord.
J'en ai entendu parler, par exemple.
Si. Non, mais. Deux choses. Attends.
Le droit au logement opposable.
Voilà, droit au logement opposable.
Est-ce que le moyen est bien clair? Oui, c'est pas très clair.
Moyen?
Attendez.
Moyen d'existence. C'est pas un moyen d'existence.
Si, un moyen d'existence.
C'est pas des conditions.
Mais donc aujourd'hui, c'est ce que je veux dire, c'est que l'État le fait, puisqu'il te donne l'allocation spécifique de solidarité, puisqu'il te donne un logement, il permet d'avoir un logement moins cher, il t'aide à accéder au logement, avec l'aide au logement. Donc, malgré tout, tu as une garantie qui peut être considérée comme convenable. Et tu vois bien que les gens, tu as des aides pour te nourrir, tu vas chercher des bons alimentaires à la mairie, hein, ou au CCAS, pour les personnes âgées notamment, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ça existe quand même, mais est-ce que c'est convenable?
Alors,
la preuve que non.
Essayons de nous concentrer, de pas partir.
Mais je suis revenu sur ton truc.
Voilà.
Christian.
On est sur le mot. Bon, pour ce qui concerne simplement la loi d'Allot, faut pas lancer des trucs sans les. Hein, bon. Y a deux choses. Il faut étudier, quand on aura le temps, ce qu'il y a écrit exactement dans la loi d'Allot. Et deuxièmement, c'est une loi. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit fondamental. Un droit fondamental, c'est quelque chose qui est écrit dans la Constitution.
Oui,
une loi, ça se change en deux secondes, une nuit, l'Assemblée. Non, c'est pas qu'il y ait une loi.
C'est
pas un droit fondamental. Un droit fondamental, c'est quelque chose qui est écrit dans la Constitution. Voilà, simplement les deux points. Bon. Le droit au logement, c'est quelque chose dont il faudra qu'on parle. Revenons à nos moutons. Convenable.
Mais c'est pas écrit là, justement. C'est pas écrit là dans le sens où peut-être que même il y a des problèmes là, il a le droit d'obtenir. Oui. Et maintenant, on a des existences, donc
oui.
Pour un logement.
Donc le logement, de toute façon,
c'est
un logement fondamental.
Voilà. Alors,
c'est la reconnaissance du.
C'est le mot convenable dans la Constitution. Encore une fois, on n'est pas dans la loi qui se change. Cette loi, elle est peut-être pas issue de l'Assemblée nationale, c'est peut-être un décret, enfin bref. C'est des choses qui peuvent se faire comme ça, deux coups de cuillère à peau. La Constitution, c'est très difficile à modifier. Donc, est-ce que le mot convenable est suffisamment précis pour servir de base à une législation? C'est ça la question. C'est ça le terme de Constitution.
Vu comme ça, oui. Je change là. Oui, ok. Vu comme ça, le terme convenable, ça va permettre d'écrire une législation.
Voilà. Si on dit oui, ça veut dire que si on a une proposition de loi, avec effectivement, David, tu as raison, c'est pas uniquement 500 euros, ça peut être un patchwork avec, le mot est mal choisi, un ensemble, avec un droit gratuit aux fournitures domestiques, avec un ensemble de choses, un ensemble de à la fois de facilité financière et en prestation de services, une proposition de loi comme ça, et qui va être refusée parce qu'on estime, parce qu'on protège que c'est pas convenable, et que donc c'est contraire à la Constitution. Bah, c'est ça, le schéma juridique. Est-ce que dans la Constitution, encore une fois, on va pas pouvoir lui reprocher de ne pas mettre un chiffre précis. Par contre, il faut que les principes qu'elle énonce soient des principes qui soient suffisamment précis. Un principe, qu'est-ce que c'est? Un principe, c'est une proposition. Un principe, c'est une proposition claire qui fonde un raisonnement et duquel découlent des modes d'action. Proposition claire, derrière il y a un raisonnement, et ça va générer des modes d'action, c'est-à-dire des lois. Voilà. Bon, c'est comme ça qu'on veut faire l'analyse. Alors, bon, convenable, effectivement, on pourrait trouver d'autres mots. Il me semble qu'il n'est pas si mauvais que ça, en tout cas. Pas si mauvais comme ça. Alors, après, il y a l'autre partie de la proposition. Effectivement, est-ce que être en difficulté, c'est suffisamment possible? Disons que, bon, je crois qu'on est suffisamment critique pour ne pas être taxé en tout cas de complaisance avec le législateur. Bon, c'est un article qui pose les bases, qui a le mérite, me semble-t-il, de poser les bases de la solidarité. Parce qu'on a liberté, égalité, fraternité, article 1, liberté, égalité, fraternité, la liberté n'est jamais définie. L'égalité, elle n'est pas définie non plus, c'est l'égalité devant la loi, ça ne peut rien dire. Enfin, c'est tellement minimum que bon, c'est le moindre des choses. Et la solidarité, elle n'est pas définie non plus. Mmh. Bon. Elle a le mérite d'exister dans une phrase de l'article 11. Donc, je pense qu'on peut dire que voilà, ça donne un cadre juridique, ça donne un cadre constitutionnel, à la notion de solidarité.
Oui.
Hein? C'est pas si mal. Bon. Le 12, qu'est-ce qu'il nous dit? La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous, les Français, devant les charges résultant des calamités nationales. Bon. Ça paraît, je sais pas ce que vous en pensez, à la fois clair, précis et cohérent.
Non.
Ah non, d'accord.
Moi, je sais pas ce qu'ils entendent par calamité nationale. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est... je sais pas...
Il y a des chances pour que la guerre soit exclue.
Attends, laisse...
C'est intéressant. Un attentat, une usine nucléaire qui explose. Enfin, je sais pas, du coup, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est le climat?
D'accord.
Une tempête...
Qu'est-ce qu'on entend par calamité nationale? Alors, je vais tenter une réponse. On entend par calamité nationale ce qui est décrété par le gouvernement comme étant une calamité nationale. C'est-à-dire que lorsque... Alors, n'oubliez pas que... Souvenez-vous qu'à chaque fois que vous habitez dans un département ou dans un village ou dans une région qui a subi une tempête, et vous avez tous les élus du coin qui vont taper chez le préfet pour qu'il déclare l'état de calamité nationale. Parce qu'on va pouvoir bénéficier de l'article 11 de la Constitution. Donc, calamité nationale, c'est un décret qui est pris par la puissance publique par rapport à un événement extérieur. C'est bien, c'est pas bien. C'est précis, c'est ça.
Quand on dit de la nation, c'est le préfet.
Ah ben, le préfet représente la nation, hein. Le président de l'État,
non, alors, oui, alors, non, mais, alors, c'est ça, David, c'est intéressant. Bon, on anticipe, parce que là, on arrive sur la fabrication de la loi. Elle est faite par qui? Par le préfet du sous-préfet du coin, le technocrate qui a soufflé au préfet, bref. On pourrait mettre. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales déclarées comme telles par le président de la République, par exemple. Non, le président de la République, je prends un exemple. Ça veut dire que calamité nationale, on dit qu'il faut qu'elle soit définie, on ne va pas pouvoir faire une liste avec calamité nationale, mais définie par une instance qui est précise dans la Constitution.
Oui, tout à fait.
Et il pourrait y avoir une instance, il y a le conciliateur, il y a le CESE, il pourrait y avoir le comité des calamités nationales. Bon. Mais là, c'est laissé la pression de... Est-ce que c'est bien, c'est pour... Je ne sais pas si c'est un point suffisamment important. Est-ce que ça pose des fois problème cette histoire de calamité nationale? Alors, par contre, la guerre.
Mais c'est quand même une calamité nationale.
Le préfet ne déclare pas calamité. Au contraire, c'est une...
mobilisation générale.
Attends, au contraire, calamité, c'est quoi? C'est une... Quand on est tous à Berlin avec la fleur au fusil, c'est pas une calamité, ça. Ça, c'est une fête nationale.
Les gilets jaunes, c'est une calamité nationale.
Ah oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est...
Ah mais, attends, je pense qu'il y a certains commerçants qui essayent de faire reconnaître par la préfecture l'état de calamité nationale pour se faire indemniser.
Les commerçants des Champs-Élysées, là, ils sont capables.
Mais quoi, à la place du Fouquet, c'est quand même merde alors.
Je vais verser de là.
On aura pu y aller pendant un moment.
Hein. Voilà. Prendre un peu.
Ma cantine alors. C'est pas l'eau, ils ont cramé ma cantine.
Puisqu'on enfin, une petite récréation, là où on se lâche. Si les événements des Gilets jaunes permettaient que tous les commerces de luxe dégagent les Champs-Élysées, je serais le premier à vivre.
Et pas aux Champs-Élysées.
Hein?
Tu n'as pas vu que ça
a... Non, et je vais te dire pourquoi les Champs-Élysées. Parce que, au départ, les Champs-Élysées qui sont devenus quelque chose de d'abominable pour les riches, truc haut de gamme. Au départ, les Champs-Élysées, c'est un endroit populaire, hein, où le peuple de Paris venait aux champs, c'est des champs, venait s'aérer. Voilà. Et bien, qu'on s'en passait de cette merveille, les Champs-Élysées, merveille de récréatif, hein. Mais tiens, là, c'est la nation qui garantit les loisirs. Les Champs-Élysées, c'était les loisirs. Bon. Et maintenant, c'est toutes les plus grandes marques
capitalistes.
Et donc, il pourrait y avoir, je souffle l'idée, aux Gilets jaunes, une justification, alors destruction salutaire des Champs-Élysées. Plus ils en cassent, mieux ça vaut, les Hugo Boss et compagnie, pour rétablir l'origine, l'éthique.
Les Champs-Élysées.
L'éthique originelle des Champs-Élysées. Et il faudrait faire un petit historique.
Attention, hein, c'est des anticapitalistes.
Oui, non, mais il faudrait justifier ça avec une charte éthique. Une charte éthique qui soit écrite, en disant voilà quelle était la vocation originelle des Champs-Élysées pour le peuple, etc. Et c'est devenu maintenant l'allée pour les rupins ou les pauvres qui viennent baver sur des trucs qu'ils ne pourront jamais acheter.
Même sans aller à Paris, on voit ce qui est devenu l'Hôtel Dieu. Hein.
Oui, mais de toute façon, c'est l'idée. Hein.
C'était un emploi pour les pauvres, quoi, au départ. Hein. Justement, pour soigner les indigents.
D'ailleurs, pour en revenir aux loisirs, je pense que les parcs et jardins, c'est permettre aussi aux gens d'avoir des loisirs. C'est
Donc, les Gilets jaunes, c'est un service de santé.
Ouais.
Ah, ben oui.
Mais quel monde.
C'est un service public, oui, du mot de la santé, de santé mentale. Bon. Alinéa 13. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, la formation professionnelle, la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. Donc là, on continue à inscrire dans la Constitution des services qui sont définis précisément. Ils ne sont nuls par ailleurs, pas avec le terme de service public.
Moi, je trouve que c'est des bons articles pour parler du service public.
En tout cas, il est dit que la nation doit garantir l'égal accès à tous.
Voilà.
Hein? Donc l'instruction, la formation professionnelle et la culture. Bon, l'instruction, Bon, c'est l'école, on voit bien. La formation professionnelle, bon, c'est aussi l'école.
Pour les adultes.
Et la culture. Alors, bon. L'instruction, ça part. Alors, c'est clair, quand même. Ça, c'est clair et précis. Hein. Bon. Est-ce que c'est cohérent? Alors, l'instruction, c'est l'enseignement, c'est l'école. Bon. A priori, c'est ça.
Hein?
Bon, après, on va chipoter, on va dire que l'école, c'est pas vraiment gratuit. Enfin, bon, on verra ça plus tard.
Ça, c'est autre chose.
Oui, mais enfin.
Mais ça devrait l'être, puisque c'est écrit là.
Non, mais cohérent, c'est-à-dire que ça l'est pas. C'est-à-dire que dans la loi, ça l'est pas. A priori, ça l'est dans la loi. A priori, l'école gratuite, A priori, ça l'est. La formation professionnelle. Est-ce que tout le monde a accès gratuitement à la formation professionnelle?
Oui, c'est gratuit ou c'est...
Ah, oui.
Là, garantie, oui. Alors, accès, ça veut dire...
Oui, c'est gratuit.
Ah, si.
Légal accès, c'est gratuit.
Ah, bah, attends.
Ah, oui.
Libre accès. Légal accès de l'enfant. Légal accès à la formation.
À la formation professionnelle gratuite, elle est payante, mais en général, elle est...
Oui, t'as
des heures. Quoique
Pôle
emploi te refuse souvent la formation.
Attends, David, non, tu as peut-être pas tort de lever le... David nous dit... moi, je lis la Nation garantit l'égal accès. Est-ce que ça veut dire que c'est gratuit? C'est vrai que c'est pas vraiment formulé... L'égal accès, pour le coup, ça ne veut pas dire grand-chose, l'égal accès.
Il y a la phrase d'après, l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque.
Ah
oui,
mais ça clarifie les choses quand même.
Oui, mais il n'y a que ça.
Oui, mais c'est l'enseignement public.
Ah d'accord.
Et gratuit.
Bon.
Alors. Le public ne regroupe pas forcément la culture.
Bon. Alors, on a bien de précision que l'éducation. Hein, c'est laïque et gratuit, bon là il n'y a pas de... Par contre, on dit, qu'est-ce que c'est qu'un égal accès à la formation professionnelle? C'est quoi? Ça veut dire quoi?
Tout le monde a...
Oui, non, mais est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair l'égal accès? Qu'est-ce que ça veut dire l'égal... Moi je trouve que ça veut rien dire égal accès. Égal accès à la formation professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Égal. Tout le monde y a accès pareil. Supposons qu'il faille payer 1000 euros, bon ben tout le monde y a accès pareil. Parce que...
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas le droit d'avoir deux choses différentes.
Oui.
Qui payera 1000 et puis un autre qui payera.
Voilà, donc ça peut être payant. Mais il faut que ça soit payant pareil pour tout le monde. Voilà. Donc, franchement, est-ce que vous trouvez que c'est.
Je vais remettre un coup sur les loisirs de tout à l'heure. Mais il y a plein de loisirs, ils ne sont pas gratuits, mais tout le monde y a accès, et tout le monde peut y avoir accès. Et oui, mais tout à l'heure on a dit les loisirs, ça veut être gratuit. Donc, non, mais nulle part, je mets, je sais gratuit. Tout à l'heure on a parlé de loisirs, en disant, est-ce qu'il y a un éventail de, et d'ailleurs, si tu regardes bien, par exemple, la télévision, peut être considéré comme un loisir, un accès à la culture, d'accord, et ça c'était gratuit. Tu dois acheter une télé, mais l'accès.
Et puis il faut payer la rente d'avance, etc. Attends, c'est pas gratuit.
Alors.
Oui, donc garantie. Parce que
c'était
garantie, ça veut dire gratuit. Mais là, l'égal accès, c'est un privé, c'est gratuit.
Voilà, il vient de te donner la réponse.
A priori.
La VNO RTF, avant, c'était gratuit. La piste aux étoiles, quand je regardais, c'était gratuit.
Parce que pour vous, quand elle dit garantie à tous, il y a, le terme en même temps de gratuité.
Ça, c'est pas toi qui l'as payé, c'est
bon,
pas... Voilà pourquoi. Tu rigoles, la redevance, ça date de
Mathusalem. Mais c'était pas très cher. Et tout le monde payait la même chose.
Mais là aussi.
Là, c'est un amour juste. Tout le monde paye la
fin. Bon,
c'est pas juste.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
C'est pas juste. Bon.
L'article 11, il dit.
Alors.
La nation garantit.
À tous.
Le repos et le loisir.
Voilà.
L'article 13, il dit.
La nation garantit l'égal accès.
L'égal accès. Bon.
C'est pas
un peu. C'est pas tout à fait pareil. Il y a, c'est vrai, manque de précision. On mettrait. Gratuité, on comprendrait mieux
garantie
ce que ça veut dire.
Gratuitement ou
hein? Même gratuité.
Bon.
L'accès gratuit.
L'accès gratuit.
Ben, donc, l'accès gratuit.
L'accès est gratuit dans ce cas-là. Mmh. Si c'est gratuit.
C'est
voilà,
aussi bien dans l'article 11 que dans l'article 13, c'est pas évident que ça veut dire que c'est gratuit. Si on veut être, si on veut être
précis.
Alors, il semblerait quand même que ça soit ça l'idée. Hein. Il semblerait que ça soit l'idée, mais il faudrait mieux l'écrire. Bon, alors ce qu'on peut nous déduire, hein, en tant que par rapport à notre exercice, pour que ça soit bien précis, que ça tient de la route, il faudrait mettre gratuit, aussi bien dans le 11 que dans le 13, toutes ces histoires de libre accès, d'égalité d'accès ou de garantie de ceci, bon, c'est pas assez précis, il faut mettre gratuité.
Voilà.
Mais là, on a avancé quand même.
D'accord. Bah, si tu le dis.
Ah non, c'est pas si je le dis. Je dis dans la mesure où personne ne me contredit. Non, mais.
On avait soulevé le problème de la gratuité par rapport aux loisirs, justement.
Parce que c'était gratuit.
Parce que rien ne l'est dit, en fait.
Tant que.
La connerie qui est la télé, ça m'embête que la télé soit gratuite pour certaines personnes.
C'est pas gratuit.
Bah, si, la télé.
Bon, alors. Bon, alors restons concentrés. Là, on a mélangé deux exercices, hein, qui est un exercice de réfléchir sur la validité juridique d'une proposition qui était faite par la CGT. On a mélangé ça avec un autre exercice qui était d'étudier la validité juridique d'une chose qui est écrite et qui n'est pas négociable pour l'instant.
Voilà.
Bon. Ça nous a permis d'avancer quand même pas mal, hein, dans notre étude du préambule des 46. Maintenant, on reprend la suite de l'exercice CGT. Alors, on a vu que les droits fondamentaux, ben, c'était ce qu'on vient de.
Voilà.
Et que ce serait plus clair s'il y avait le mot garantie à chaque fois, plutôt qu'à d'avoir des périphrases du genre le libre accès permet au libre accès ou bien égal à garantir le libre accès ou garantir. Pour le garantir, il faut que ce soit dire accès gratuit, pour que ça soit clair. Alors,
on reprend.
On a vu ça, les trois fondamentaux. Bon, hein. Maintenant.
On revient sur la définition.
On revient sur la définition qui est complétée par une deuxième phrase. Le service public, c'est quelque chose qui vise à assurer la liberté de chaque citoyen de pouvoir exercer ses droits et défendre ses besoins vitaux.
Défendre ses besoins vitaux ?
Défendre ses besoins
vitaux. Ouais.
Alors, première partie de phrase. Le service public, c'est un truc qui vise à assurer la liberté de chaque citoyen. Et ça, il revient avec cette histoire de liberté.
Oui, mais là, c'est pas comme tout à l'heure. On parle bien de liberté.
Voilà. C'est pas juste de dire.
On ne parle pas d'hommes et femmes libres, on parle bien de liberté. C'est ce qu'on a apporté tout à l'heure dans la discussion.
Oui. C'est peut-être plus clair.
Oui, mais enfin, c'est peut-être plus clair, mais mon avis, c'est que ça ne veut strictement rien dire. Un service public vise. C'est-à-dire, le but du service public, c'est d'assurer la liberté.
Est-ce qu'il faudrait pas remplacer liberté par égalité ? Viser à assurer l'égalité de chaque
De toute façon, il y a une grosse faille dans cette affaire, c'est que on n'a aucune définition de la liberté. De toute façon, c'est une faille générale dans la Constitution. Hein. Mais, là, on manipule des concepts.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué.
un service public, c'est quelque chose qui vise à assurer la liberté de chaque individu. C'est franchement, c'est l'exemple même de la phrase qui veut rien dire, sous réserve qu'on ait défini de façon précise ce que c'est que la liberté. Ou alors, c'est le truc qui se mord la queue, hein, c'est-à-dire, vous voulez savoir ce que c'est que la liberté? C'est facile, c'est avoir des services publics. Hein, oui. Et qu'est-ce qu'un service public? Ah ben, c'est quelque chose qui assure la liberté.
Ouais,
c'est un truc qu'ils le font souvent, ça. Hein. Bon, voilà. Ce qu'on peut dire, on n'a pas de conclusion. Hein.
Est-ce qu'on peut pas définir la liberté comme tu as fait avec convenable en définissant ça par son inverse, la liberté par l'absence de liberté, par exemple par la privation.
Ouais.
Ce serait pas une manière possible de définir un concept.
Ouais. Alors ça c'est
l'absence de privation.
Voilà. Alors ça vrai, c'est vrai pour liberté, c'est vrai pour justice, c'est vrai pour paix. Tu vois, par exemple, qu'est-ce que c'est que la paix?
L'inverse de la guerre.
Pas vraiment. Je sais pas. Par contre, tu dis, ne pas être en... T'es pas en paix, tu comprends ce que ça veut dire.
Mais...
Qu'est-ce que c'est que la justice? Ben, tu te dis, c'est ce que j'ai sorti le soir, là, à Socrate. Là. Mais... un état de justice, on sait pas trop le ressenti, mais par contre... Quand je ressens une injustice, je la ressens. Bon. Et la liberté, c'est pareil. On a la perception, perception de la liberté, est très difficile. Hein. Par contre, on a la perception de non-liberté, on sent quand on est privé de liberté. Mais bon, on ne va pas faire un débat sur la liberté, on le fera sans doute. Il y a la liberté positive, la liberté négative.
Liberté selon Kant.
Oui. Bon, voilà. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle n'est pas définie dans la Constitution. Elle est énoncée. Liberté, égalité, fraternité. Et alors, si on fait passer le correcteur orthographique là, sur la Constitution, le texte de la Constitution sur Word, par exemple, et qu'on tape liberté pour voir le nombre de fois que c'est indiqué.
Dans la Constitution?
Oui, non. C'est indiqué aucune fois. C'est dans liberté, égalité, fraternité, et après on parle des libertés publiques. Et c'est tout. Donc le mot liberté n'est pratiquement pas cité dans la Constitution. Voilà. Bon. Alors, ensuite, là je trouve que la CGT a fait un travail qui n'est pas très très clair, parce qu'il nous dit que d'abord, c'est fondé sur trois éléments et aussi sur trois principes. Alors, voilà. Bon, en conséquence.
La liberté d'exprimer un pouvoir exercer ses droits de défense et plus dans le tout, on a vu liberté, on n'a pas vu plus vaste. On laisse tomber, vu que c'est pas clair la liberté, on laisse tomber la phrase, c'est ça?
Oui, tu as raison, on n'a pas terminé.
Oui, on n'a pas terminé.
Il y a deuxième partie de la phrase.
Merci,
David.
Et qui est important. Non, mais
tu me diras combien Il a raison. Bon, alors, c'est vrai parce que, attends, le pouvoir. Alors, viser à assurer l'univers des justices citoyens, on a dit que là, c'est bon. Alors, maintenant, pouvoir exercer ses droits et défendre ses besoins vitaux. Le service public, c'est un truc qui permet d'exercer ses droits et de défendre ses besoins vitaux. Là on sent de l'idéologie.
Tu crois?
Non, mais là, c'est pareil, ça ne nous permet pas de définir un service public.
Ah ben oui, non, clairement.
C'est juste comment on peut s'appuyer sur le service public, mais on n'a toujours pas défini le service public.
Non, mais...
Il faut déterminer voilà. Les besoins.
Bon, donc cette phrase, il n'y a pas la route.
Disons que ça définit pas le service public. Elle tient la route, mais ça dépend ce qu'on veut en faire.
Oui, elle tient pas la route en tant que.
Point de vue,
elle tient pas la route en tant que définition du service public.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
5 minutes, hein. On n'a plus que 5 minutes.
Non, mais le premier.
Parce qu'après, sur le.
Moi, je pense que c'est la première phrase qui est la plus.
Oui,
qui
oui.
Paraît la plus significative, quoi. C'est clair.
Ok, non,
c'est.
Oui. Voilà. Donc, non, ça tient pas. Alors, après, on va accélérer. Bon, il y a trois éléments.
qui fonde le service public, qui caractérise, comment ils disent ça? En conséquence, l'expression service public désigne trois éléments différents.
La mission,
l'organisation, qui est une activité d'intérêt général définie dans ses principes fondateurs du droit que l'on retrouve dans le préambule de la Constitution. Le mode d'organisation
consistant de façon directe ou indirecte à faire prendre en charge ces activités d'intérêt général rendues obligatoires par la Constitution par des personnes publiques, États, collectivités territoriales, établissements publics.
Et un statut.
Et un statut pour le personnel chargé de faire fonctionner ces services publics de manière à ce qu'ils puissent assurer leur mission en toute indépendance vis-à-vis des pressions extérieures. Ça, c'est pareil. Ouais. Intéressant.
Alors oui, mais
je pourrais expliquer.
Voilà. Alors est-ce que c'est vous l'avez peut-être pas tout seul. Bon, la mission c'est un service public. Ça a une mission d'intérêt général. Donc là, on retombe sur la question d'intérêt général qui n'est pas définie. Et là, on a un gros problème.
Oui.
On a un gros problème. Oui. Parce que, toujours pareil, si nous on fait le chat qui se prend la queue, ah ben c'est un public, c'est l'intérêt général, oui d'accord. Et l'intérêt général, c'est vous n'avez qu'à regarder ce que font les services publics, c'est l'intérêt général. Voilà.
Non, mais c'est pas ça.
Alors on avait évoqué, mais ça, de temps en temps, on nous a quand même une petite torte, on avait dit comment définir l'intérêt général. L'intérêt général. Eh ben on va continuer à réfléchir. Hein? Ce serait bien d'avoir. Bon. Alors, ensuite, un mode d'organisation. Moi, j'ai l'impression qu'il se répète un peu, là, genre le deuxième truc là. Consistant de façon directe ou indirecte de faire prendre en charge les activités d'intérêt général, rendues obligatoires de par la Constitution, ça c'est ça qui se voit avec eux, par des personnes publiques. Bon, oui, ça veut dire que. C'est un peu redondant quand même. Une mission, un service public, c'est quelque chose d'intérêt général et qui doit être assuré par la collectivité, hein, on va dire. Mmh. Ouais. Bon, d'accord. Et un statut. Alors, le statut des travailleurs du service public, il est justifié par le fait que ces gens ne doivent pas subir de pression extérieure.
Oui, c'est ça.
Est-ce que ça vous paraît, on ne parle pas d'idéologie, est-ce que ça vous paraît clair? C'est clair, hein?
Pour moi, c'est clair, hein? Mais j'ai même...
C'est clair, les travailleurs... Bon, après, on va voir comment on peut faire en sorte qu'ils... Mais bon, c'est affirmé, ce serait affirmé dans la Constitution que les travailleurs des services publics, ils doivent être intouchables, un peu comme...
Non, pas intouchable, mais ils doivent pouvoir...
Incorruptibles.
Incorruptibles.
Les incorruptibles.
Ouais, c'est ça.
Les incorruptibles.
C'est ça.
D'accord. Donc c'est clair, ça.
Ouais.
C'est clair. Bon. Et puis, on termine sur... Parce que, bon, on parle d'éléments, puis on dit qu'il y a des principes. Enfin, on va dire tout ça, c'est des principes. Hein. Alors, on retombe sur les lois de Roland. Là. On ne va pas y revenir. Hein. On reprend les lois de Roland. Continuité. Égalité, bon, ça c'est la gratuité.
Juste une chose, on ne pourrait pas aussi définir, je trouve qu'il y a un terme qu'on est passé à côté, c'est les besoins vitaux. Est-ce que justement le service public ne doit pas également assurer le terme besoin vitaux? Parce que du coup on a complètement barré la phrase. Je trouve que le terme besoin vitaux, c'est important.
On l'a barré,
on a dit qu'il n'y avait rien de bien dans cette phrase.
Ben on sait pas ce que c'est.
Oui, ça pourrait être intéressant à définir aussi. Parce que justement, est-ce que le service.
Si c'est pas défini, ça ne veut rien dire, sinon il faut le définir.
Voilà.
Est-ce que l'eau est un besoin vital?
C'est pas la première fois. Et ça fera partie peut-être de la phase de réécriture. C'est pas la première fois qu'on dit
Je sais pas, à propos de quoi on avait parlé des besoins vitaux, il faudrait qu'il y ait, oui, un inventaire de besoins vitaux, oui.
On avait parlé déjà de la pyramide de Maslow.
Quand
est-ce
qu'on en a parlé ?
Ouais.
Oui,
la
spontanée.
On avait.
Ah non !
Besoins essentiels, tu vois ?
Non, c'était à propos de l'égalité de. Quand on parlait des impôts.
Déjà, quand on a parlé
quand on a parlé des impôts que la TVA, tout ça, c'était
injuste.
Bon, que les besoins vitaux devaient être exonérés. Enfin, bon. Voilà.
Ouais.
Bon. Ça nous a dégourdi un peu les neurones, là.
On a parlé de moyens pour le service public.
Donc, du coup,
ben, il y a des choses que tu as passées, hein, mais le Conseil d'État a défini plus précisément la notion de service public en 1963 en considérant comme appartenant à cette catégorie des organismes répondant à certaines caractéristiques.
Bon,
alors, ils doivent avant tout satisfaire l'intérêt général et donc ne pas recourir. Laissez-moi finir. Et parce qu'elle me paraît fondamentale. Et donc ne pas recourir à la rentabilité et à la recherche du profit. À la différence des entreprises.
Oui, d'accord.
C'est le Conseil d'État qui dit ça.
Mais non, mais
c'est le terme intérêt général qui devrait définir aussi.
On n'a pas le temps, et j'en ai pas parlé. C'est le Conseil d'État. Il n'a absolument rien à voir là-dedans. Conseil d'État, c'est pas lui qui fait la Constitution. Il dit à mon avis, mais ça montre bien à quel point il y a une lacune.
Ah ben, conseil, mais c'est clair.
Mais non, mais le Conseil d'État, il n'a absolument rien à voir là-dedans. Hein.
Disons qu'il il ressort cet avis du Conseil d'État parce que
il est
quand même moi je le trouve intéressant. Expliquer qu'un service public ne peut pas faire un profit, on a eu cette discussion là la semaine dernière, que justement ça doit être obligatoirement redistribué ou être utilisé pour faire de la recherche pour améliorer le service. Voilà, c'est même le Conseil d'État lui dit, c'est quand même intéressant. Il y a
non, mais ça, c'est vrai que cette précision est intéressante à garder, je pense.
Pardon ?
C'est intéressant à garder le fait
c'est
que
c'est un, c'est un point de vue. C'est pas. Après, ça se discute.
Après, l'intérêt général n'est pas possible, on en revient.
Non. Oui.
Il faudra en préciser l'intérêt général.
Bon, après, il y a les. Je vous ai mis, je ne sais pas si vous avez vu, mais entre autres, il y a la construction européenne et la remise en cause du service public, les traités sur l'Union européenne et instituant la communauté européenne sont en contradiction avec le principe de service public tel qu'on le connaît en France et défini ci-dessus. Moi, je le pense aussi, ça.
Oui, oui, oui. Mais, là, c'est lui qui le définit.
C'est
le service public tel qu'on connaît en France et tel que défini ci-dessus.
Ouais.
Chacun donne sa définition. Mais bon, oui.
C'est pour ça qu'il faut essayer. Mais enfin, ce sera peut-être l'occasion.
Mais c'est vrai que c'est précis ce qu'il dit là. Le Conseil d'État.
Je suis étonné d'ailleurs. Moi, ça m'a surpris. C'est pour ça que je pensais pas que le Conseil d'État aurait pu écrire un tel truc, quoi. Mais ça devait être. Oui, en 63. Je pense que le même Conseil d'État aujourd'hui ne réécrit pas la même chose.